d'Arusha à Arusha. C'est le film dont on va parler ce matin avec Christophe Gargaud qui est en ligne, je crois, avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes donc le réalisateur du film. Et en plateau, nous avons son producteur, Christophe Goujon. Bonjour.
Bonjour.
Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est qui a eu l'idée de ce film, pourquoi, comment ça s'est fait, tout ça. Pourquoi vous, Christophe Gargaud, qui je crois que c'est votre premier long métrage, pourquoi avoir choisi un tel sujet pour ce premier long métrage, et vous, Christophe Goujon, pourquoi avoir décidé de le produire?
Qui commence?
Toi.
Alors moi, la raison de ce film, c'est que je m'intéressais depuis, on va dire, 99, de manière concrète, à la justice internationale, et que j'avais, dans les années 2001-2002, fait un petit travail de documentaire plutôt plastique sur les images de la justice internationale, puisque en 2000, je découvre que ce tribunal se fait filmer, et que donc il produit une matière audiovisuelle. Et ça m'avait particulièrement intéressé parce que c'était à l'époque où en France on commençait à rendre des procès majeurs publics via la télévision et qu'on accédait pour la première fois aux archives du procès Barbie. Mmh. Et que autant ça faisait l'objet en France de débats assez importants sur doit-on, peut-on, comment montrer la justice, doit-on ou pas montrer la justice, que c'était entouré d'un corpus juridique excessivement strict. Et que là, en l'occurrence, moi, j'avais accès à une matière libre de droit, j'en faisais ce que j'en voulais, je la transformais comme j'en voulais. Donc, c'était au départ, il y avait cet intérêt, d'une part, pour la matière audiovisuelle stricto sensu, et puis sinon, j'étais aussi personnellement fasciné par le sujet, puisque dès 95, un ami journaliste qui était au Rwanda en octobre 94 s'est intéressé à la création de ce tribunal, et comme j'ai une relation très forte avec lui, j'ai été baigné comme ça dans l'émergence de cette justice. Donc c'est le carrefour des deux choses. Et puis ensuite, tout ça nous amène en 2005 et ma rencontre avec Christophe Goujon. Et lors de notre premier rendez-vous, on évoque différents thèmes, dont celui-ci. Il me dit, si tu as le courage d'écrire quelque chose sur la justice internationale, moi ça m'intéresse de le produire. Et puis c'est parti comme ça.
Alors, vous confirmez, Christophe Goujon?
Oui, je confirme absolument. Ça fait partie des questions politiques qu'elles nous intéressons, nous, en tant que producteurs, depuis déjà quelques années. Et effectivement, et puis avec un intérêt pour les premiers films et les premiers longs-métrages, en tout cas, et Christophe Gargaud a été une personne dont j'ai accepté le projet très vite, parce que c'est un auteur au sens où nous l'entendons. Mmh. Et effectivement, la décision n'a pas pris très longtemps. Après, le rythme de production est assez lent, vous l'avez remarqué, puisqu'on a commencé ce projet début 2006. Et nous sommes fin 2009, et que ce film sort en salle. Mais nous restons assez... nous sommes très satisfaits de cette production, qui est pour nous assez emblématique de nos moyens de produire, voilà.
Mmh. On reviendra sur la manière de produire et sur notamment le fait que ce soit un film très long. Alors Christophe Gargaud, vous me dites que c'est un film sur la justice internationale, mais pour moi c'est surtout un film sur le Rwanda, parce que il n'y a pas d'image outre celle du tribunal. Enfin, il y a des images du Rwanda et des images d'Arusha du tribunal. Pourquoi n'avoir pas voulu mettre des images d'autres tribunaux internationaux?
Alors, effectivement, c'est bien d'abord et avant tout un film sur le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et donc c'est un film sur la manière dont la justice s'intéresse et essaye d'y voir clair et de juger la responsabilité d'un des plus grandes tragédies de ce siècle, à savoir les crimes contre l'humanité et le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donc effectivement, on part bien d'une histoire singulière dans un pays singulier. Toutefois, je parle toujours de justice internationale, puisqu'au travers l'exemple du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui va bientôt fermer, il a commencé ses activités très concrètes en 95, et là, il est déjà en train de fermer. Ils vont maintenir une chambre d'appel, mais le tribunal, sur le fond, est en train de fermer. Et c'est la possibilité, au travers cet exemple-là, de faire le point sur qu'est-ce qu'une justice internationale, qui est, on le rappelle, très récente, je reviendrai dessus, là-dessus, peut contribuer à reconstruire, ou pas d'ailleurs, dans des tragédies comme celle-ci. Donc c'est au travers le cas concret du Rwanda et de la justice et du TPIR, un regard plus large sur des drames qui nous concernent tous, et vis-à-vis duquel les solutions qu'on met en place ont été élaborées a priori collectivement. Donc voilà. Alors après, moi il s'avère que c'est plus facile pour moi de travailler en profondeur sur un sujet pour éclairer plus largement, plutôt que de travailler de manière fragmentée pour essayer de trouver un pur jus. Donc après, c'est une disposition de réalisation. Mais je pense que ce film éclaire et le cas rwandais, mais peut-être des enjeux plus larges, plus profonds, que sont la possibilité ou pas de juger à la dimension internationale des histoires pareilles.
D'autant que ce tribunal il est situé à Arusha, c'est-à-dire en Tanzanie, et pas du tout dans le pays concerné, c'est-à-dire le Rwanda.
Non, et pour une raison, pour de multiples raisons, mais pour une raison d'abord principale, qui est que le seul pays, au moment où l'ONU a décidé de la création de ce tribunal, le seul pays qui était contre, c'était le Rwanda lui-même. Donc à partir de là, il était difficile d'implanter le tribunal dans le pays qui n'en voulait pas. Donc il a fallu trouver une autre destination, et dans cette zone. Alors, il avait été convenu dès le départ que ce tribunal devrait être en Afrique, ce qui était plutôt une bonne initiative. Et ensuite, il fallait trouver un lieu qui puisse faire symbole et puis qui puisse le prendre. Alors, aux alentours, il y en avait très peu. L'Ouganda, ce n'était pas possible, parce que la rébellion du Front patriotique rwandais était partie de l'Ouganda, donc il était directement associé à cette histoire. Le Congo, ce n'était pas possible, d'une part, parce que à l'époque, le Zaïre était déjà en phase de déliquescence, puis il avait soutenu, lui, le parti inverse. Le Burundi, c'était pas possible, parce que lui aussi sortait d'une crise terrible avec les crimes commis par l'élite Tutsi sur les Hutus du Burundi. Le Kenya, pas possible, parce qu'il était le pays qui avait accueilli pas mal d'anciens génocidaires. C'est d'ailleurs là que quelqu'un comme Georges Rouge sera arrêté, par exemple. Et donc, il restait un seul pays dans la zone qui était à peu près paisible, pas trop impliqué dans cette histoire, sauf d'une seule manière, qui était la Tanzanie. Et puis, c'est aussi dans cette ville, à Arusha, que l'année précédente, c'est-à-dire en 1993, des accords de paix avaient été organisés, mis en place pendant plusieurs mois pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit rwandais. Et en novembre 1993, des accords de paix avaient été signés entre les différents partis et qui prévoyaient
une transition démocratique,
multipartie et démocratique. Oui. Et donc, d'une certaine manière, c'est dans cette ville où une paix avait été négociée que sera jugé le fait qu'elle n'ait jamais pu être appliquée, en fait.
Et alors, ce tribunal, en tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a jugé combien de personnes ?
Je pas le chiffre exact, mais je crois que c'est une cinquantaine de personnes, un peu plus. Il y a 78 personnes qui ont été poursuivies, et à ce jour, je pense que 55 ou 56 décisions, jugements ont été prononcés. Une dizaine doivent être faire l'objet d'un appel, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est après à peu près 15 années d'activité, c'est ça. Et c'est à peu près 600 à 700 personnes qui travaillaient à temps plein dans ce tribunal. Et c'est un budget d'environ 110 millions de dollars annuels.
Ça, c'est un petit peu choquant. Il y a plein de choses qui me choquent dans ce rapport de chiffres. Parce qu'on se dit un génocide et moins de 100 personnes jugées, ça semble terrible. Un million de personnes tuées et moins de 100 personnes jugées, le rapport de chiffres me semble absolument effrayant. Et puis, quand on pense à la justice française et à son manque de moyens, par exemple, et au nombre de personnes qui sont jugées par jour et au manque de juges, etc., c'est une réflexion comme ça. On se dit, là, il y a vraiment un déploiement de moyens que vous montrez très bien dans le film, hein, d'ailleurs, avec ces grandes salles vides notamment. C'est assez parlant pour juger finalement très peu de personnes. Est-ce que c'est pas ça, d'abord, qui peut-être poser des questions ?
Oui, assurément. Mais alors, ce qui se passe, c'est que les critères d'évaluation que vous devez mettre en place, y compris pour évaluer les critères que vous venez de poser, peuvent absolument pas être les mêmes que pour une justice comme la nôtre. Alors, que ces tribunaux ne puissent pas juger tous les responsables et tous les acteurs, ça me semble inévitable, en particulier dans le cas du Rwanda, puisque, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle un génocide tristement de proximité, c'est-à-dire que, outre des responsables au plus haut niveau, c'est une très très grande majorité de la population qui y a participé. Donc, on parle ici peut-être de 200, 250 000, 300 000 personnes. Donc, aucun tribunal n'est capable de juger ça. On reviendra là-dessus, mais et a fortiori, pas du tout un tribunal international. D'autre part, c'est que pour mener des enquêtes sur des projets comme celui-ci, si vous voulez les monter, les faire, en, les mener en profondeur, et puis si vous voulez respecter un minimum de principes juridiques de base, bah, il faut pouvoir investiguer longuement, vérifier que les preuves sont exactes. Donc ça demande du temps et des moyens. Donc d'une certaine manière, on peut pas, la justice internationale ne peut pas exister sans, sans déployer des ressources. Ensuite, ce qui se passe en revanche, c'est quelle serait sa fonction. Est-ce que la justice internationale a pour vocation, ou un tribunal d'exception comme celle-ci, a pour vocation d'essayer de juger l'ensemble des acteurs et le plus largement possible, ou au contraire, a-t-elle plutôt pour vocation d'agir assez rapidement, de juger les gros poissons, et ensuite de trouver d'autres solutions pour ce qui est, je dirais, pardonnez-moi l'expression, mais de second couteau. Je vais vous prendre une analogie. Si vous prenez Nuremberg, par exemple, le tribunal international de Nuremberg a jugé 22 personnes. À l'échelle du drame de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, ce n'est pas grand-chose. Toutefois, on ne s'est jamais posé la question en ces termes pour Nuremberg, parce qu'on a très très vite compris qu'il fallait, quand je dis « on », hein, c'est ceux qui ont créé le tribunal et puis après la communauté mondiale, a très vite compris qu'il y avait d'un côté les responsables nazis qui ont été véritablement coupables d'avoir entraîné leur pays à la perte, et puis le reste de la population qui a peut-être participé, mais dont le régime de culpabilité n'était pas le même. Et donc il fallait d'une certaine manière que le tribunal international pour Nuremberg opère et un repérage très strict des responsabilités principales, et libère psychologiquement le peuple allemand d'une culpabilité collective. Mmh. Et je pense que c'est peut-être là où il y a quelque chose à vraiment réfléchir pour la justice internationale, et du coup lui mettre peut-être une pression plus faible quand elle est clairement une responsabilité, c'est de se dire qu'elle doit agir plus vite pour faire œuvre de justice, et puis elle doit agir en revanche de manière égale, de manière équitable sur l'ensemble des acteurs concernés. Donc voilà, c'est la façon d'espérer qu'elle dépense moins d'argent, qu'elle le dépense mieux, et puis surtout qu'elle fasse œuvre de justice de manière plus efficace.
Vous faisiez allusion au temps, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait du film. Il s'agit de Raphaël Constant, qui est un Français, qui est avocat de Théoneste Bagosora, qui était lui un des responsables, et qui est considéré d'ailleurs comme le cerveau du génocide. Donc on l'écoute dans sa déclaration préliminaire. Il parle justement de ce rapport au temps du fameux tribunal.
Sera assez particulier puisqu'il commencera par un mot « enfin ». Enfin, 11 ans après les faits, le colonel Théoneste Bagosora, ancien directeur de cabinet du ministère de la Défense, pourra commencer à s'expliquer. 9 ans après son arrestation, 8 ans et 3 mois après son arrivée à la prison des Nations Unies à Arusha. Que le procès de celui qui, selon mon confrère Chile Eboé Osuji, présentait Bagosora comme la figure de proue, comme étant celui qui est au centre de l'entente pour la réalisation du génocide, il est paradoxal qu'on ait pris autant de temps pour vouloir le juger. permettait aussi de faire observer à la Chambre qu'au-delà du cas du colonel Bagosora, 78 personnes ont fait l'objet de poursuites. Sur ces 78 personnes, 77 étaient des citoyens rwandais et un citoyen belge, mais que l'histoire retiendra quand l'état des choses, 11 ans après la création de ce tribunal, ces 77 Rwandais sont des Hutus. Quand on sait que le Conseil de sécurité a donné comme mission à ce tribunal de juger tous les crimes et toutes les violations du droit humanitaire commises au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994, on ne peut être qu'étonné qu'à ce jour, les poursuites n'aient été dirigées que dans un camp. Il est évident que ces observations, vous n'en êtes pas comptable. Vous, en tant que juge, votre mission est de juger, et vous allez donc juger. Encore faut-il, pour que vous puissiez juger, que préalablement, vous puissiez comprendre. Car juger sans comprendre, c'est comme dit le proverbe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Voilà, c'était donc Raphaël Constant, cet avocat donc, qui est dans son rôle, hein, qui défend comme il peut, et plutôt pas mal d'ailleurs, cet ancien directeur de cabinet du ministère rwandais de la Défense en 1994, et qui a été donc désigné comme le cerveau du génocide. Mais les questions qu'il pose, bon, outre le fait qu'il essaye de défendre son client, ce qu'on comprend, sont quand même importantes, notamment sur le temps et sur aussi qui on juge dans ce tribunal. On ne juge que des Rwandais. Bon, alors ça, que ce soit des Hutus ou des Tutsis, bon, bah, quand même, le génocide a été commis contre des Tutsis, donc c'est à mon sens un peu normal qu'il y ait surtout des Hutus dans le tribunal. Mais qu'il n'y ait pas d'étrangers, par exemple.
Oui, ça c'est sûr. C'est une sacrée question quand même. Quand on sait, si jamais on n'oublie pas de se rappeler que ce drame, c'est d'abord le produit d'une histoire coloniale qui a quand même introjecté une anthropologie raciste et qui a produit ce qu'on sait. Lorsqu'on sait que ce sont sûrement des rapports de force politique ou géopolitique qui ont d'un côté favorisé l'émergence d'une... qui ont soutenu d'un côté une rébellion Tutsi et de l'autre un régime français qui a soutenu une défense ou l'idée d'une défense civile. Donc là aussi, il y a des responsabilités. Lorsqu'on sait que l'ONU, qui avait une force d'interposition, a dégarpi dès que ça a commencé à chauffer, là, on peut quand même s'étonner à un moment donné que l'histoire ne se regarde que sur une de ses facettes. Donc, voilà. Alors après, dans les faits, lorsque vous savez, par exemple, que l'avocat de Théonès Bagosora, lorsqu'il a voulu faire venir témoigner des représentants militaires français, il s'est battu comme un fou pour pouvoir les faire venir, et qu'au dernier moment, quand je dis au dernier moment, c'est quasiment la veille pour le lendemain, on lui annonçait que le témoin ne viendrait pas et qu'il serait interviewé en vidéoconférence cachée. Ça vous donne à peu près la mesure de ce que certains acteurs de cette histoire, pas peut-être directement responsables au sens criminel du terme, mais qui ont des responsabilités là-dedans, n'ont pas voulu l'éclairer, ça c'est clair. Donc, je pense que c'est d'ailleurs un problème pour l'avenir, c'est-à-dire que cette justice, moi je pense qu'on ne peut faire œuvre de justice que quand on le fait complètement, équitablement et de manière aussi égale. À partir du moment où vous donnez le sentiment que la justice a été rendue que pour certains, vous ne pouvez pas échapper à l'accusation de ne pas avoir été équitable, c'est pas possible.
Et d'ailleurs, justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que à propos de l'interdiction du jour au lendemain, c'est ce qui est quand même arrivé à la projection de votre film en avant-première donc à l'UNESCO. Moi, j'ai reçu une invitation, j'allais m'y rendre, et puis la veille, j'ai reçu un message de l'attaché de presse pour me dire que c'était pas possible. Donc ça, je demande à la fois à vous et au producteur, Christophe Goujon, comment ça s'est passé, cette fameuse interdiction, enfin cette annulation d'une projection. Ça arrive pas très souvent quand même.
Non, mais c'est pas une interdiction écrite ou dite. Une interdiction tacite, c'est-à-dire on vous dit, on vous signale simplement que vous ne pourrez pas faire la projection, donc sans explication majeure. Donc c'est à vous d'en déduire que, effectivement, au regard du réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda 3 jours auparavant.
Oui, il y a un ambassadeur qui venait d'être nommé.
Hein. Vous imaginez que des représentants. Français, rwandais ou même internationaux qui sont d'ailleurs membres de l'UNESCO ont décidé simplement de ne pas donner suite, en fait, de ne pas déséquilibrer quelque chose qui était en train de prendre forme pour eux.
Vous pensez que le film avait matière à déséquilibrer ?
Oui, le film a matière à déséquilibrer dans le sens où le film a matière à interroger, en fait, les limites du fonctionnement d'une justice. Et comme le rappelait Christophe Gargaud de ce point de vue-là, il y a effectivement. Voilà, vous le disiez vous-même, il y a plein de choses qui sont effectivement qui sont de l'ordre de l'interrogation et qui remettent en scène, évidemment, les responsabilités. Et puis même le fait de rappeler, d'une certaine manière, le fonctionnement, au-delà du fonctionnement de la justice, mais ce qui s'est vraiment passé par des personnages. Voilà, c'est juste une manière de faire comprendre que ce n'est pas le moment, en fait, voilà. À partir de là, voilà, vous pouvez vous dire que c'est une exigence politique, tout simplement.
Enfin, c'est pas le moment maintenant, mais ce ne sera
non,
plus jamais
sera
le moment.
Non, de toute manière, plus tard non plus, mais voilà, c'est. Et je pense que plein de. Enfin, ce sont des mots cruels parce qu'on a tendance à les employer un peu n'importe comment, mais je pense que la censure est d'abord une démarche administrative, en fait. Mmh. Voilà. Comme ça, elle ne s'accommode d'aucune explication nécessaire.
Vous l'avez appris comment que la projection allait être annulée ?
Ben, on l'apprend parce qu'on est toujours en cours. Parce que, pour obtenir une projection à l'UNESCO, en fait, vous êtes obligé de vous faire accueillir par un département. Mm-hmm. Dont la direction de ce département décide de prendre cette projection à sa charge à la fois technique, mais à la fois de s'en accommoder sur un plan intellectuel. Donc, jusqu'à présent, nous, c'était le département de la recherche sociale, enfin, c'était un département de ce type-là, qui avait accepté le principe. Et puis, voilà, du jour en main, on vous fait comprendre que ce département se dédie, voilà. En vous disant que la direction générale de l'UNESCO a finalement renoncé à ce que ce département accueille cette projection dans le cadre de ses activités. Mmh. Voilà.
Voilà, sans explication. Donc bon, c'était même pas reporté, c'était annulé. C'est vrai que ça a été un petit peu choquant, je pense, pour la presse notamment qui était invitée. Ça a été c'était quelque chose de. On a constaté que la plaie était encore ouverte, en fait. Justement là où on pensait à un réchauffement, on pensait à éventuellement une réconciliation et puis justement les choses un peu plus claires, et ben on s'est rendu compte justement à travers cet acte que ça c'était pas du tout le cas, et c'est vrai que le film le confirme.
La réconciliation elle passe par l'effacement de voilà des polémiques et des traces. Donc a priori il est plus insidieux et adroit de se dire que voilà qu'un film même j'ai même un film de cinéma qui a priori ne met en scène que des voilà que des événements. Après tout, il vaut mieux chercher à ne pas être lié à ça, en fait, voilà, tout simplement.
Oui, parce que faut le dire. Je pense que vous allez être d'accord avec ça, Christophe Gargaud, c'est que dans le film, il n'est question nullement d'accusation directe contre la France, sauf.
Non, non, c'est vraiment pas le sujet principal du film. À un moment donné, Le film rappelle quand même qu'il y a un rapport de force politique entre la France et le Rwanda, et que et je reviendrai rapidement dessus, mais c'est pas du tout le cœur du film. Le film éclaire beaucoup plus largement cette histoire. Il va à un moment donné le pointer parce que c'est une réalité un peu incontournable. Mais
oui, il y a à un moment donné le président rwandais intervient et on voit qu'il parle pas mal de l'étranger. Mais bon, ça, beaucoup de présidents le font aussi, et pas seulement quand c'est justifié de renvoyer la faute sur l'étranger. Bon, là, en l'occurrence, il le fait. Mais vous avez filmé ça, mais c'est quand même pas le cœur du film.
Non, c'est pas le cœur du film. Je le filme simplement pour montrer à quel point, à un moment donné, vous avez des enjeux géopolitiques et des enjeux de politique internationale qui sont absolument dominants dans ces histoires-là et qui font que la justice a un mal fou à s'émanciper. Donc je le prends plus pour reposer le fait que cette justice, avant d'être une justice internationale, on est d'abord confronté à une diplomatie judiciaire. Et que là, j'ai, au travers de trois scènes dans le film, le moyen de le montrer de manière assez explicite, mais c'est pas du tout un film sur l'implication de la France au Rwanda. Moi, juste une anecdote, hein, y a des fois comme ça, on le fait vraiment pas exprès, mais vous avez des concordances de calendrier qui sont étonnantes. Lorsque je me suis rendu au Rwanda pour faire mon repérage, c'était octobre et novembre 2007. Et je venais de déposer ma demande d'autorisation de tournage depuis une semaine, que c'est à ce moment-là que le rapport Bruguière accusant l'actuel régime du FPR d'être responsable de l'attentat, et que c'est à ce moment-là que le gouvernement rwandais a rompu ses relations diplomatiques. C'est un peu étonnant que c'est le jour où on fait la première présentation publique et qui correspond d'une certaine manière à au fait que le rapport Bruguière soit enterré, il y a une espèce de concordance de temps qui est un peu étonnante, mais on peut jurer qu'on ne l'a vraiment pas fait exprès. Hein.
Ah non, mais ça, je pense que vous n'y êtes pas pour grand-chose, parce que ça, l'interdiction de la projection, ça, je pense que c'est pas un coup monté. Ou alors c'est très très bien joué, c'est très tordu, là.
On ne peut pas le prévoir, c'est pas possible.
Oui. Alors, parlons un peu du film et surtout du procédé que vous avez utilisé. Vous avez utilisé donc ces archives du tribunal international pour le Rwanda qui sont libres de droit. Vous avez pris les images. Alors, c'est très bien filmé, parce que, enfin, très bien, c'est très propre, disons, hein, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et puis, vous avez aussi filmé au Rwanda, puisqu'on rappelle que le tribunal n'est pas au Rwanda. Vous avez filmé à la fois les tribunaux populaires et vous avez employé un dispositif qui est assez intéressant, c'est que vous avez montré les images du procès à certains des protagonistes, notamment Jean de Dieu, qui est un ancien enseignant Hutu, marié à une Tutsi, qui a participé au génocide, à plusieurs autres personnes, à sa femme notamment, et vous les avez fait réagir sur le procès. Comment vous est venue cette idée ?
Elle m'est venue assez tôt. Elle m'est venue justement dès les années 2000-2001, lorsque j'ai testé pour la première fois vis-à-vis de personnalités étrangères ces images. C'est-à-dire que j'avais sélectionné quatre séquences de procès ayant lieu à Arusha dans les années 2000, que j'avais montré à des personnalités françaises, les mêmes séquences à 13 personnalités différentes. Et je m'étais rendu compte à quel point ces archives étaient intéressantes, à la fois pour ce qu'elles évoquaient, ce qu'elles portaient comme contenu, mais qu'elles étaient aussi très intéressantes en tant qu'outil de transfert, c'est-à-dire ce qu'elles permettaient de faire dire, de possibilité de faire émerger une parole. Et bien évidemment, cette expérience, je me suis dit très vite qu'il faudrait trouver à la mettre en place auprès des premiers concernés, à savoir les Rwandais, qui n'auront jamais de relation avec ce tribunal. Donc c'était de poser cette archive à la fois comme vecteur de récit et aussi comme dans sa force transitive, comme étant génératrice d'un autre récit. Et ce faisant, de recréer a posteriori une relation qui n'a pas eu lieu.
Et ce qu'on comprend dans ce film, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est pour ça une immense qualité, c'est que on a tendance quand même à avoir une vision un peu manichéenne, surtout de loin, de ce qui s'est passé là-bas. Et donc, notamment, Jean de Dieu, quand vous lui montrez les images, c'est quelqu'un qui a une parole qui est vraiment touchante et qui montre bien la complexité des choses et qui montre bien aussi ce que peut être un génocide, c'est-à-dire comment on devient un tueur professionnel sans en avoir la vocation. Je vous propose qu'on écoute Jean de Dieu. Alors, c'est un petit montage que j'ai fait à partir des extraits de votre film. J'ai collé plusieurs séquences où il intervient. On l'écoute et peut-être on parle après de son témoignage.
Avant 94, je voyais, j'étais au courant de la ségrégation ethnique, religieuse, selon l'histoire. Mais j'avais jamais appris le mot génocide. J'ai été au courant de ce mot après le génocide, après 94. Par exemple, moi, j'ai été inspecteur de secteur scolaire. Je contrôlais les écoles. Pas parce que j'étais si intelligent. C'est un exemple typique que je vous donne. Pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, que les Tutsis. Mais quand on donnait des candidatures, on demandait où se trouvait un Hutu. Où se trouvait un Hutu qui pourrait mieux diriger tel ou tel poste. Donc on les éloignait depuis longtemps. Et ça a fini par ce qui s'est passé en 1994. Donc pour moi, je vois en ça une méchanceté ou bien une haine qui émane de longtemps. Bien que moi, je suis Hutu, mais je voudrais vous avouer ceci, je suis un Hutu marié avec une Tutsi. Donc pour vous montrer que je suis au courant de ce qui se passe, mais moi, dans mon intérieur, je ne peux pas pencher sur tel ou tel côté. Je suis entre les deux. Et les Tutsis, je suis membre. Il n'y a pas moyen de distinguer mes enfants, dire cet enfant est ceci ou cela. Il y a eu croisement. Les Hutus, je suis né de là.
Est-ce qu'on vous a demandé de tuer votre épouse?
Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ailleurs, on attendait parler de ça. Donc, quand on venait, on te disait, allez, tue ton épouse. Mais pour moi, ça n'a pas été. On venait, on me menaçait. Mais ce n'était pas jusque-là. J'ai eu de la chance. Mais à la fin de la théorie, quand il n'y avait plus de Tutsi à assassiner, on devait recommencer et voir, ou bien entrer chez les gens qui avaient des liens d'amitié ou des liens de parenté avec les Tutsis. Heureusement, le FPR est venu de l'autre côté et tout le monde s'est fui. C'est ce qui a stoppé la méchanceté qui allait recommencer.
Voilà, ce témoignage, vraiment, il est bouleversant cet homme, parce que bon, il est en prison, hein, et puis je crois qu'il a pris 30 ans de prison, c'est ça, je crois.
Oui, il a d'abord été condamné à 9 ans de prison, il a été donc arrêté dès 1994. Il a ensuite fait 9 ans de prison. Ce qui est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jean de Dieu fait partie de ces gens qui ont très très tôt, très vite avoué leur participation au génocide, et qui ont fait partie de ce qu'on appelle la stratégie des aveux. C'est-à-dire qu'au départ, pour quand même rappeler que le Rwanda avait une population carcérale la plus importante du monde, avec 130 000 détenus pour un pays de 8 millions d'habitants, c'est considérable. Et qu'il fallait générer de la preuve, il fallait générer de l'aveu et de la preuve pour essayer de que les gens reconnaissent ce qui s'était passé. Et donc, plusieurs procureurs se sont attelés à ça, dont un qui est parvenu comme ça à convaincre assez rapidement quelques personnes de plaider coupable et puis d'avouer leur crime, dont Jean de Dieu, et ensuite de devenir l'allié du procureur, c'est-à-dire d'aller dans les prisons très vite, dire « mais arrêtez, on est tous, on y a participé, vous le savez ». Autant le faire, et si on le fait, on participe à la reconstruction du pays et on aura une remise de peine. Donc Jean de Dieu a activement participé à ce processus, il a donc bénéficié au bout de 10 ans d'une remise de peine, Et ensuite, il est rentré chez lui, il s'est revenu à vivre avec sa famille. Ils ont d'ailleurs eu un quatrième enfant qui, un peu miraculé, l'ont appelé Bénéfice, c'est quand même assez étonnant. Et puis Jean de Dieu est allé régulièrement dans les tribunaux populaires expliquer les choses, etc. Et malheureusement, malgré tous ces engagements-là, d'une certaine manière, le deal moral et institutionnel qui avait été passé, une gachacha l'a condamné à 30 ans de prison complémentaire, donc il est de retour en prison.
Une gachacha, c'est-à-dire, le
cas de Jean de Dieu est non seulement emblématique de la dualité tragique du Rwanda, il est emblématique de cette distinction qu'il faut quand même toujours un peu opérer entre des responsabilités qui ne sont pas de même niveau. Ça, moi, je tiens à le dire, et qu'à un moment donné, une collectivité doit être capable d'assumer cette difficulté-là. Et il est emblématique aussi de la réconciliation qui ne se fait pas, puisqu'à partir du moment où parmi les acteurs, certains tentent ou ont tenté activement de
faire naître une conscience, c'est ça surtout.
Parce de que travailler, le... ouais, d'opérer un travail de conscience, de le faire, de favoriser ce travail de conscience collective, et qu'il ne soit pas, entre guillemets, je dirais, payé en retour, prouve s'il en est que les plaies restent très très fortes dans ce pays et que la question de la réconciliation, à mon avis, est encore loin. Je voudrais juste, si vous permettez, faire une dernière remarque. Vous avez parlé de. Et qui devient. Et que Jean de Dieu devient un tueur professionnel. Non, c'est justement pas le cas. Il n'est pas justement un tueur professionnel. Je pense qu'il faut absolument garder cette frontière-là. C'est tout sauf un tueur professionnel. C'est vraiment un tueur de circonstances. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, je me suis mal exprimé.
Il faut comprendre dans le cas rwandais.
Oui, je me suis mal exprimé. C'est parce que c'est vrai qu'à la radio, notamment, et on va entendre un petit peu de cette radio-là, justement, il était question de leur dire d'aller travailler pour aller tuer. Voilà, c'est ce terme qui m'a fait penser à professionnel, mais c'est vrai que
un tueur
à la chaîne, quoi. Il a été un tueur à la chaîne pendant un moment de sa vie.
Voilà, bah pendant, en fait, faut quand même imaginer comment c'est. Vous êtes d'abord dans un tout petit village, le soleil se lève tôt au Rwanda, donc dès qu'il y a du bruit dans un village, c'est tout petit, vous entendez, les gens se lèvent tôt et puis vous entendez tout de suite. Donc à 7h du matin, tout le monde est en train de s'animer, et il partait le matin, il revenait vers 16h, 16h30, parce que la nuit tombait. Et il faisait ça toute la journée. Voilà.
Et ça, alors, ça a commencé, on a oublié de le dire, ça a commencé le 6 avril, enfin, il y a eu quelques massacres avant, mais
alors,
le 6...
Oui, c'est très important de le préciser. Les premiers crimes, notamment les crimes politiques, ont lieu à Kigali dans la nuit du 6 au 7. Et ensuite, à Kigali, ça va, les crimes ont commencé à partir du 7 et ça va monter en intensité. En revanche, dans d'autres zones du Rwanda, c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que les crimes ne démarraient pas. C'est notamment le cas du Sud. Vous aviez des gens qui appelaient le Sud, dont est issu à la fois, et dont est issu Jean de Dieu. Et dans la région de Boutaré, il a fallu toute l'énergie des gens qui étaient à l'époque au pouvoir, qui sont venus plusieurs reprises se rendre dans le Sud pour vraiment encourager les gens à tuer, notamment dans cette ville universitaire de Boutaré. Je le dis parce que c'était probablement un lieu où une mixité d'une certaine manière se faisait et où le politique était peut-être plus serein. Et donc Jean de Dieu, ils ont commencé dans sa zone, ils ont commencé les crimes plus tard, aux alentours du 15, 16, 17 avril, je crois, quelque chose comme ça. Pas immédiatement. Il a fallu l'embrasement des extrémistes hutus dans ces régions, dans ces villages, le déplacement de quelques personnalités importantes pour que d'un seul coup le poison raciste et criminel s'active en quelque sorte. Alors voilà, on n'a pas les mêmes dynamiques à tous les endroits du Rwanda. C'est important parce que ça éclaire aussi le fait que on n'était pas forcément dans une machine criminelle verticale organisée depuis aussi longtemps que ça, et de manière aussi efficace que ça.
Mais alors néanmoins, ça, on entendra peut-être un extrait qui parle justement de planification ou pas, mais alors, le temps file très vite malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a cette radio Mille Collines qui a joué un rôle énorme dans la motivation des tueurs. Et on va entendre un extrait qui date de qui est dans le film, bien sûr, et qui date de mars. Donc on est quand même avant le fameux, enfin l'avion qui transportait le président et qui est abattu. On est quand même avant ce fameux attentat qui déclencherait tout. Mais il y a quand même déjà des choses un petit peu tendancieuses sur la radio, et notamment dans la voix de ce Belge qui a été donc mandaté pour venir faire de la radio au Rwanda. Et on va écouter tout de suite un extrait qui montre comment il a fait cette radio.
Vous écoutez la radio-télévision libre des Mille Collines. Il va être 12h dans un peu moins de 18 minutes à Kigali. Et donc, afin d'alimenter vos réflexions, nous avons pensé et été fouillés dans notre bibliothèque. On a donc choisi pour vous deux extraits du Prince de Nicolas Machiavel. Voici donc un extrait du chapitre 18, de la cruauté ou de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint. Je crois qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Les hommes en général sont plus portés à ménager celui qui se fait craindre que celui qui se fait aimer. La raison en est que l'amitié, étant un lien simplement moral de reconnaissance, ne peut tenir contre les calculs de l'intérêt. Au lieu que la crainte a pour base un châtiment dont l'idée reste toujours vivante.
Voilà, c'est donc un extrait très soft, parce que c'est le premier qu'on entend dans le film. Il est très très soft celui-là, mais quand même, on nous parle de Machiavel. On c'est une préparation douce pour l'instant, mais ensuite, bon, je n'ai pas passé, on ne mettra pas un extrait dans cette émission parce que c'est pas en français, mais il y a ensuite des paroles vraiment de haine et d'incitation au meurtre direct. Hein. Et ça, c'est notamment Ryuji, voilà. C'est un Belge qui est donc venu au Rwanda et qui tient l'antenne à ce moment-là.
Oui, on est effectivement. Donc là, la RTLM est une radio bien évidemment politique, hein, qui est un instrument de propagande de l'extrémisme hutu et qui va comporter différents animateurs. Rujou étant de tous les animateurs probablement le plus soft de tous les animateurs. Certains sont vraiment des appels au crime. Bon, juste parce que vous faisiez le pont tout à l'heure avec la question de la planification, vous saviez bien évidemment, au cours des années 93, 94, même un peu avant, vous aviez des outils comme ça qui étaient progressivement mis en place. Les RTLM va commencer à diffuser en 93, et qui était la preuve que certains avaient envie d'en découdre. Alors on ne sait pas comment, avec quelle intensité, etc. Mais il est évident que certains entretenaient une haine et qu'ils entendaient bien ce que cette haine puisse se transformer en crime à un moment donné. Donc vous aviez comme ça des outils, et les RTLM étaient l'un d'entre eux.
Voilà. Il faut vraiment aller voir le film parce que
son discours propagandiste et d'appel au crime va monter en puissance. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que le TPR n'est pas d'accord là-dessus en fonction des chambres. Certaines chambres considèrent que la RTLM commence à devenir un outil d'appel au meurtre après l'avion d'Abirimana au sens strict, en disant aller tuer X ou Y. Alors que certains considèrent qu'elle est déjà un appel au crime en 93. À cette époque-là, lorsque vous écoutez les archives de 93, vous êtes vraiment dans l'outil politique qui consiste à dire il y a des méchants, c'est le FPR, il y a des méchants, c'est les démocrates hutus, et il faut absolument mettre fin à tout ça. Mais on n'est pas tout le temps et forcément encore à l'appel au meurtre. Puis après, ça va monter en puissance et ça ne va pas arrêter.
Alors, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais il y a un portrait qui est fait dans ce film de ce Belge qui est venu animer sur cette radio, qui est absolument magnifique. Enfin, il y a des personnages dans le film, on ne va pas tous les entendre, hélas, mais qui sont vraiment des. Enfin, vous avez choisi les protagonistes, je ne sais pas comment vous les avez trouvés, mais par exemple, un qu'on va entendre là, ce sera peut-être le dernier qu'on entendra dans cette émission, qui est Lorien. Zenimana, j'ai toujours du mal, qui est absolument formidable. Je vous propose qu'on l'entende tout de suite et puis ensuite on en parle et on parlera aussi un petit peu, on prendra les dernières minutes pour parler de la forme du film qui est très très importante. Oui.
J'ai entendu parler de plan. Ah ben, je dis comme lui, je n'ai jamais entendu parler de plan avant l'explosion. Et ma manière d'entrer dans excusez-moi le terme, mais ma manière d'entrer dans le génocide, donc dans ce qui était en train de se passer dans le pays, je me suis rendu compte que c'était progressif. S'il y avait des planificateurs, ils étaient très peu nombreux. Les autres, ils les ont eus par intimidation, par deux forces en fait, la peur et l'avidité. Si tu ne tues pas, je te tue, mais si tu tues, tu prends le bien de l'autre. C'est ça qui a fait que les gens sont entrés progressivement dans cette dynamique du diable. Mais ce n'était pas comme un plan où les gens se levaient et disaient « Ok, maintenant, objectif numéro 2, point A. » Non, c'était pas ça. Je n'ai pas eu cette impression-là. Je vais parler de mon fils dans la famille. Parce que son grand-père et mon père étaient frères, c'était le bourgmestre de la commune de Runyinya. Il s'appelait Deo Hategekimana. Cet homme-là, au début du génocide, il s'est battu comme un fou contre les tueurs qui lui venaient de la préfecture de Gikongoro, parce que c'est là que ça a commencé, dans le sud. Il en est arrivé à tirer sur les gens pour les empêcher d'atteindre sa commune. Les tueurs qui venaient tuer et brûler les maisons. Il s'est battu. Et puis les gens qu'il a arrêtés et amenés à la brigade judiciaire de Boutaré, ils sont revenus avec des militaires pour le narguer et lui dire « Mais pauvre con, tu ne comprends rien. C'est nous qui avons raison et toi tu es en porte-à-faux. Alors, tu te ranges ou tu meurs. » Et le bourgmestre s'est rangé. Il a laissé brûler. Et l'on dit même, ça je n'en suis pas témoin, on dit qu'il aurait retourné ses armes contre les Tutsis qu'il avait défendus au départ. Et je dis, Deo n'était pas dans le coup. Il n'était pas dans la planification. C'était pourtant un dirigeant. C'était un bourgmestre.
Je pense très sincèrement qu'on a deux réponses caricaturales, à savoir celle qui dit « après le 6 avril, tout a été spontané » et celle du procureur qui est tout aussi caricaturale « avant le 6 avril, tout avait été programmé ». Moi, je crois que ce n'est pas aussi simple que cela, à savoir qu'il y a un phénomène de dégradation et de décomposition du tissu social rwandais à compter de 90, qui va être particulièrement amplifié à compter du 6 avril. Les gens ne sont pas sortis le 6 avril de chez eux avec leurs machettes pour dire qu'ils vont tuer. Mais à compter du 6 avril, on a une situation déjà éminemment dégradée. Et à partir du 6 avril, avec l'attaque du FPR, avec les défaites des FAR, avec l'abandon par le gouvernement de la capitale Kigali, il y a chez le citoyen rwandais non seulement le sentiment d'une peur, mais surtout de l'incapacité de ses dirigeants à pouvoir résoudre le problème.
Cette question de planification, je sais qu'elle est constituante du concept de génocide. Mais là, il faudrait plutôt se demander comment est-ce que ces gens-là ont réussi aussi vite à embraser tant de gens. Et je veux te répondre, c'est une question de niveau de conscience. Ils ont eu la chance d'avoir une société au niveau 1. Des gens, dès que tu as le pouvoir, même si tu es le chef d'un secteur, et que tu dis quelque chose, il vous oumra, mais ça c'est dans notre tradition, il vous oumra, mais c'est la parole prononcée par le roi. Tu l'exécutes ou tu es exécuté. Alors ça, c'était du temps de la tradition, donc avant la colonisation. Pendant la colonisation, c'était Ivuzumwami était remplacé par Ndiobwana, c'était du Swahili. Ndiobwana, ça veut dire « oui, monsieur ». Oui, monsieur, c'est dans le même sens. Oui, monsieur, je vais le faire. Parce que je sais que si je ne le fais pas, moi on va me défaire.
Voilà. Bon, c'est presque sans commentaire, mais vraiment, vous avez choisi des gens qui ont une réflexion sur les choses. Et à la fois, ce qu'il dit, c'est grave, c'est très important, quoi. Ça explique parfaitement ce qui s'est passé. Et en fait, ça explique mieux qu'on ne peut le faire dans un tribunal. C'est ça aussi qui est étonnant dans ce film, c'est que vous faites réagir des gens face aux discussions, et ce sont les meilleurs avocats qui puissent être, quoi, en fait, parce qu'eux, ils ont vécu les choses.
Bah oui, là, Lauriane Ntezimana, c'est donc il appartient à la communauté Hutu. Il était à l'époque des faits, il habitait dans le sud, donc dans cette famille universitaire qui s'appelle Butare, et il était théologien, et donc avec plusieurs de ses amis, il est parvenu à sauver de nombreuses vie de Tutsi. L'un d'entre eux, d'ailleurs, il a payé de sa propre vie. Laurien a failli être assassiné aussi. Donc, bon, ce serait ce qu'on appelle des justes, hein, dans le langage convenu. Mais oui, ce sont des gens qui étaient extrêmement impliqués, puis qui le sont depuis dans la reconstruction, parce que ils essayent de comprendre. Ils appartiennent à la communauté Hutu, et puis que surtout, depuis le départ, ils ont œuvré pour que le Rwanda devienne plus démocratique, devienne un pays qui fonctionne autrement que dans ce rapport de force communautaire. Ils sont directement impliqués, oui. Ils connaissent bien leur histoire, en tout cas.
Alors, juste pour terminer, il nous reste très peu de temps. Enfin, voilà, il faut vraiment aller voir ce film. Il passe dans deux salles à Paris et aussi ailleurs dans toute la France. Donc, il faut trouver les horaires. Je crois qu'il passe au cinéma près de Montparnasse et puis.
Premier cas de Parnasse et autre Luxembourg.
Bah voilà, merci.
Et dans d'autres salles en France aussi. Hein.
Et à voilà. Marseille, Lyon.
Bien sûr, bien sûr, à Marseille, j'imagine qu'il passe quand même.
Oui, il faut le dire. C'est pas facile d'exister entre Avatar et Max et les Maximons, donc faut le dire. Ouais.
De quoi vous me parlez, je les connais pas, ceux-là, moi je les ai pas vus. Le vôtre, je l'ai vu deux fois. Donc, d'Arusha à Arusha, un film vraiment à voir. Et alors, un film, je disais ça hors antenne à Christophe Goujon, que j'ai vu la première fois et je l'ai trouvé long. Je l'ai trouvé lent. Et long. Et en fait, c'est vrai que c'est un film qui dure presque 2 heures, qui a une forme très particulière, outre ce dispositif que vous avez utilisé de faire voir des archives à des gens que vous avez filmés au Rwanda, les fameux protagonistes dont on parlait à l'instant. Il y a aussi de longs plans de coupe sur le tribunal, souvent vide, sur les locaux, des plans aussi de paysages. Et en fait, quand on le voit une deuxième fois, on comprend que c'est déjà peut-être une parabole de la lenteur de la justice, et puis ça a son utilité. Vous l'avez pensé comme ça ?
Oui, dès le départ, dès l'écriture, il fallait trouver à soulager une matière dense, parce que ces séquences de procès, notamment, il se dit beaucoup de choses complexes. Donc il fallait trouver un moyen de faire vivre cette expérience complexe sans épuiser le spectateur au bout de 10 minutes. Donc il fallait une temporalité différente, il fallait une mise en perspective différente. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point aussi, c'est que on vous avait dit que l'archive était de qualité, mais parce que nous l'avons rendu de qualité. Mm-hmm. Le produit brut, il est d'une mauvaise qualité.
D'accord.
Il est mal filmé, il est mal cadré. C'est un enfer à travailler. Et donc, et notamment, il est filmé avec des caméras plafond, donc pas à hauteur d'homme. Et il fallait à un moment donné pour pouvoir apporter le sujet à la hauteur de ceux qui veulent l'entendre, c'est-à-dire le spectateur, donc à leur hauteur d'homme, et bien recréer une relation normale dans l'enceinte de ce tribunal, d'où les plans que vous voyez de la salle vide et qui permet au spectateur progressivement de se projeter dans un espace auquel on n'avait pas prévu sa place au départ.
Et ce qui est intéressant aussi, vous parlez des caméras, vous filmez les caméras, notamment les caméras qui sont dirigées toutes seules, là, vous les filmez comme des personnages. Et ça, on comprend que la caméra devient un protagoniste aussi de ce procès, de l'histoire.
Absolument, c'est même plus fort que ça. À partir du moment où vous êtes dans des tribunaux où il n'y a quasiment pas de public et où la place du public n'a pas été prévue, ou modestement, j'ai envie de dire, eh bien, d'une certaine manière, les caméras deviennent auxiliaires de justice pour le public. On peut le dire comme ça, presque.
Oui. Alors, on continue une minute, même si le générique est déjà parti, parce que l'émission se termine. Donc, ce film, on sent aussi... vous êtes réalisateur, vous êtes l'image, c'est votre métier, et vous n'avez pas, parce que vous traitez d'un sujet grave, renoncé à un certain esthétisme qui est quand même très très agréable aussi. Voilà, enfin, je voulais le signaler, je ne sais pas
d'accord.
Si vous l'avez pensé comme ça.
Oui,
mais...
j'ai pensé aussi comme ça.
Voilà, parce qu'il y a des très beaux plans, il y a des très belles perspectives, il y a des très beaux paysages, bien sûr. Il y a vraiment, c'est un film qui est extrêmement bien monté et dont l'image est absolument magnifique. Bon, vous étiez aidé par les paysages magnifiques, mais bon, c'est vrai que filmer un tribunal, c'est quand même... Bon, filmer de l'architecture, c'est toujours délicat. Ben, vous avez su le faire, et pour ça, je voulais vous dire bravo. Voilà.
Mais juste pour dire une petite chose par rapport à ça, c'est que je pense que le cinéma tel qu'il est dit là, c'est privilégier une sensitivité métaphysique du cadre et de l'image, et que la télévision, en fait, elle est dans une inflation informationnelle à son détriment. Et c'est un peu la différence, voilà.
Mais justement, je pense que ce temps, en tout cas en ce qui me concerne, mais je suis une spectatrice lambda, ça donne le temps de se poser les questions, c'est-à-dire de comprendre à la fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire du Rwanda, on comprend exactement ce qui s'est passé, enfin on comprend même plus finement que ce qu'on a pu nous expliquer, et puis on se pose des questions quand même sur ce tribunal, là on n'aura pas le temps d'écouter les derniers témoignages que je voulais et qu'on passe, mais notamment Carla Del Ponte qui vraiment remet en cause la manière dont elle fait son métier, Raphaël Constant aussi qui parle de théâtre dans sa dernière déclaration, donc on pose des questions et on a le temps de se les poser et on a le temps de réfléchir et donc c'est pour ça que bon, on peut prendre pendant les vacances de Noël là un peu de temps pour aller voir ce film que je vous remercie d'avoir fait et d'avoir produit.
Merci.
Voilà, merci à tous les deux. Christophe Gargaud, donc je rappelle que vous êtes le réalisateur de Darusha à Arusha, ce film. Donc, et vous, Christophe Constant, moi, c'est plus du tout ça. Christophe Goujon, vous l'avez produit. Voilà, au revoir et
au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir,
voilà, l'émission
beaucoup.
Se termine avec à peine du retard. Liberté sur parole. On se retrouve la semaine prochaine entre 8h et 10h. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes. Et un grand merci aussi à Anthony Paradis qui réalisait cette émission. Bonne journée à tous.
Jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit.